Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mégaphone où il va être question d'immigration, de solidarité et de rencontres. Pour cela, Victoria, en stage à la rédaction de Jet, et moi-même, vous avons concocté une émission en trois parties. En entrée, une interview du cabinet Occurrence qui vient de publier, à l'occasion de la réouverture du musée de l'histoire de l'immigration à Paris, une étude sur la connaissance et la perception de l'immigration par les Français. Vous l'entendrez dans un instant, ses conclusions sont étonnantes et pour le moins encourageantes sur une possible pacification du débat public. Tout aussi stimulant et lumineux, le plat principal de ce mégaphone, avec une rencontre avec la chorale Enchantons-nous qui réunit des réfugiés et des Nantais pour un spectacle qui aura lieu le 27 juin sur les marches du théâtre Gralin. Ce sera d'ici une dizaine de minutes. Pour finir, en dessert, dans 40 minutes, il sera question de cuisine solidaire et métisse avec un reportage sur le Refugee Food Festival qui a lieu à Nantes et dans 13 villes du 16 au 24 juin. On commence donc tout de suite avec l'étude du cabinet Occurrence sur la connaissance et le regard des Français sur l'immigration. Bonjour Assaël Adari, vous êtes président du cabinet d'études Occurrence qui vient de publier un sondage, une étude changée de regard sur l'immigration, sur la perception des Français sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un peu le contexte de production de cette étude, d'où vient la commande et quelle a été la méthodologie employée ?
Oui, bonjour à vous. En effet, le contexte est singulier. Nous réalisons une démarche de mécénat de compétences depuis de nombreuses années pour l'établissement du Palais de la Porte Dorée, dans lequel se trouve le musée national de l'histoire de l'immigration. Et sur ce sujet-là, tous les mots sont importants et tous les mots résonnent. Qui a réouvert son parcours principal après plusieurs années de travaux et de recherche lundi dernier. Et donc, à l'occasion de cette réouverture du parcours principal de ce musée, nous avons réalisé cette étude. Et comme le musée a pour vocation de proposer un regard singulier sur l'immigration, on a appelé cette étude « Changer de regard sur l'immigration ».
Et en termes de méthode, combien de Français concernés? Est-ce qu'on est à distance? Comment ça s'est passé?
Tout à fait. Alors la méthode est relativement classique. Le contenu l'est un peu moins, mais la méthode, c'est un échantillon représentatif de la population française, donc selon la méthode des quotas. Donc on a interrogé 1000 Français représentatifs de la population selon les quotas habituels, hommes, femmes, CSP, etc., etc., âge, etc. Donc la méthode est assez classique. Le contenu est un peu moins classique. L'approche qu'on a eue dans le questionnaire est un peu moins classique, notamment première innovation, si j'ose dire, on a voulu tester pas simplement de l'opinion, mais on a aussi testé des connaissances, ce qui est assez rare en fait hein, dans les sondages où on teste beaucoup d'opinions. Là, on a posé 6 questions vraiment de connaissances sur l'immigration, par exemple la part d'immigrés qui ont un diplôme bac ou plus que le bac.
Bien, excusez-moi, mais justement j'aimerais bien qu'on revienne sur les 6 questions connaissances qui sont dans ce sondage, en reprenant 4 notamment. La première, c'est le pourcentage d'immigrés dans la population française. Vous avez demandé aux gens de l'évaluer. Quelles ont été les réponses et quelle est celle qui est juste?
Le point un peu dur, si j'ose dire, de l'étude, c'est que globalement, si on regarde en effet les 6 questions, et je reviendrai sur celle-ci en particulier, les Français ont une très mauvaise connaissance du sujet de l'immigration.
Vous disiez un seul répondant sur 1000 qui a réussi à répondre correctement aux 6 questions.
Alors c'est exactement ça. On l'a regardé à 2 fois ce chiffre. Hein. C'est pas 1%. C'est pas 1% de la population. C'est bien un Français sur 1000 qui a su répondre correctement aux 6 questions. On peut le regarder aussi un peu. On peut le regarder un peu autrement même. On a à peu près 15% de la population qui n'a pas su donner la moindre réponse juste. Et on va arriver à votre question. Et quand on regarde toutes les questions de connaissance, on a très peu, on n'a jamais une majorité de Français qui a, on va dire, la bonne réponse. Donc, concernant cette question-là en particulier, donc, quelle part de la population est issue de l'immigration aujourd'hui? Là, c'est là où les Français ont le plus juste. La bonne réponse est entre un quart et un tiers des Français qui sont issus de l'immigration aujourd'hui. Et là, on a seulement, si j'ose dire, 43% des Français qui donnent la bonne réponse.
Alors là, vous parlez de issus de l'immigration.
Oui.
Mais dans votre communiqué, les immigrés seraient, selon eux, plus de 20% de la population versus un peu plus de 10% pour la bonne réponse.
Ah pardon, alors ça c'est la totalité, d'accord, c'est sur l'ensemble des éléments. Oui, vous avez complètement raison.
Oui, et autre donnée, donc en fait, la part de population immigrée en France, on est à 10% à peu près. Sur la représentation qu'on se fait aussi des immigrés, là il y a des hiatus énormes. 80% des sondés pensent qu'il s'agit de migrants issus de pays hors Europe contre 70 à 80% dans la réalité. On est souvent sur des chiffres inverses.
Oui, quand on regarde la méconnaissance des Français sur l'immigration, ce que ça dit en creux, donc ce que ça dit de manière fausse, c'est que pour les Français, globalement, l'immigré est un homme sans diplôme et ne vient pas de l'Europe.
Alors que, répétons-le, 80% des immigrés en France sont issus de l'Europe. Un immigré sur deux est une femme. Et 80%, excusez-moi, 40% disposent d'un niveau bac ou plus.
Exactement. Et donc ça change quand même, ça change le regard. Enfin, déjà la connaissance, et là, il n'y a aucune polémique là-dedans, ce sont des faits, de la science, il y a des sources, l'INSEE est une très bonne source, on a là-dessus de la statistique extrêmement robuste, fiable, pérenne dans le temps, donc il n'y a pas de débat à avoir sur ces volumes-là.
Et alors la connaissance, ou plutôt la méconnaissance, conditionne l'opinion, c'est une des corrélations majeures de votre étude ?
On s'en doutait, plusieurs experts nous disaient qu'il y avait bien un lien entre connaissance et opinion. Il n'y avait aucune étude qui l'avait démontré. Là, notre étude, elle le démontre de manière sans appel. Il y a bien un lien de corrélation entre la connaissance et l'opinion. C'est-à-dire, moins on connaît l'immigration, plus, en gros, elle fait peur et on en a une vision négative. Plus on la connaît, plus on connaît les faits, moins on a une vision négative ou on a une vision plus positive. On peut débattre pendant très longtemps de savoir si je ne connais pas l'immigration, donc j'ai une mauvaise image, ou bien j'ai une mauvaise image a priori, donc je ne cherche pas à me renseigner. C'est toujours le problème de qui cause la causalité versus la corrélation. Là, en tout cas, on démontre une vraie corrélation sur tous les indicateurs.
Oui, autre corrélation, ou pas, avec le niveau d'études et la tranche d'âge.
Oui, alors les jeunes sont un peu plus favorables au sujet de l'immigration et globalement les catégories socio-professionnelles supérieures un peu plus, même si c'est pas forcément sur tous les résultats, mais oui, il y a cet a priori là, enfin pas d'a priori, il y a cette statistique là qui paraît assez évident sur pas mal d'indicateurs. Voilà.
Alors une autre donnée qui va changer beaucoup la donne, c'est quand vous rentrez quelque part dans l'intime. Il y a des opinions générales sur l'immigration, l'étranger en tant que sujet de société, et puis quand on rencontre quelqu'un, que ce soit dans un cadre professionnel, amical ou de voisinage, là les opinions changent complètement.
Oui, et ça, ça va vous surprendre comme réponse, mais c'est la série de questions dont on est le plus fier, parce qu'elle est très fiable statistiquement et que vraiment elle propose un autre regard, c'est-à-dire que quand on parle de l'immigré, de l'immigration avec un grand L, un grand I, de la France, etc., avec un grand F, etc., là on a assez vite des réponses majoritairement négatives, mais quand on pose des questions comme on l'a fait nous, c'est-à-dire en gros, est-ce que vous avez dans votre cercle familial, dans votre entourage familial, dans votre cercle amical, dans vos collègues de travail, des personnes issues de l'immigration, on pose cette question et tout de suite derrière on pose une question, et est-ce que ces personnes issues de l'immigration constituent un enrichissement pour vous? Eh bien, très majoritairement. Donc je vais vous donner les chiffres. Par exemple, dans votre entourage familial, les gens, quand on a des personnes issues de l'immigration, 73% considèrent que c'est un enrichissement, 73%. Dans le cercle amical, 67% on considère que c'est un enrichissement. Dans le travail, à 61% on considère que c'est un enrichissement. Et déjà quand on passe dans le voisinage, voilà, eh bien, on n'est plus qu'à 47% de personnes qui considèrent que c'est un enrichissement. Et donc la question qu'on pose un peu, voilà, avec un peu de malignité, on dit mais les amis, l'entourage familial, les collègues des uns sont certainement les voisins des autres, nécessairement. Et on voit bien que là, d'un seul coup, il y a ce décrochage par cercle concentrique de perception de l'immigration. Et dès qu'elle devient un peu comme ça, un flou global dans un cercle concentrique assez éloigné, elle se colore assez vite d'une suspicion, de préjugés, etc., qu'il n'y a pas du tout dans les premiers cercles d'intimité.
D'où l'importance du lien, des croisements, des contacts. Au final, en conclusion, vous dites l'immigration apparaît toujours comme un sujet qui divise la France, mais une fois détouré, c'est finalement, il y a un noyau dur d'environ 15% et pas plus de Français qui sont dans une position radicale, et cette position radicale, c'est un non à presque toutes les questions de l'étude, une méconnaissance des faits et des chiffres, mais en fait, sur le reste des sondés de votre étude, eh bien, c'est une image beaucoup plus pacifiée que ce qui est véhiculé habituellement dans les médias et l'opinion publique qui apparaît.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'on traite le sujet, non pas globalement, mais par morceaux, qu'on le découpe, qu'on essaie de à hauteur d'être humain, hein, on a tout de suite quelque chose qui semble plus avec plus de quiétude, avec plus de bienveillance. Par exemple, on a aussi une question qui est assez jolie. On a posé une question qui est très liée d'ailleurs au musée. On a une question qui dit l'histoire de la France s'est construite en partie grâce à l'immigration, et on emploie bien ce mot grâce à l'immigration. Ben en fait, on a 66%, les deux tiers des Français qui sont d'accord. Voilà. Donc dès qu'on est sur un sujet à taille humaine, on voit qu'on peut retrouver probablement, c'est pour ça qu'il y a un peu d'optimisme et d'espoir dans cette étude, hein, on peut, et de la connaissance aussi, dès qu'on a de la connaissance, on sent qu'on peut retrouver un espace à peu près de sérénité, de discussion, de dialogue, enfin en tout cas on peut ouvrir quelque chose qui s'apparente à un nouveau regard sur l'immigration.
Merci Assaël Adari. Je rappelle que vous êtes président du cabinet d'études Occurrence qui a réalisé ce sondage, cette étude « Changer de regard sur l'immigration en France ». Merci.
Merci à vous.
Vous êtes toujours dans Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet, dédié cette semaine à l'accueil des migrants. On poursuit maintenant cette émission spéciale sous l'angle local et solidaire avec la CIMADE et sa chorale Enchantons-nous, représentée par 4 invités en plateau pour en parler. Je commence tout de suite par Dominique, bénévole à la CIMADE. Bonjour.
Bonjour.
Alors la CIMADE, c'est vous qui portez aussi ce projet de chorale et de rencontre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Dominique, ce que c'est que la CIMADE ?
Alors, la CIMADE, c'est une association de solidarité active avec les personnes migrantes. On est donc un groupe local à Nantes, on est une cinquantaine de bénévoles. Et on a une activité d'accueil des personnes qui cherchent des renseignements du point de vue du droit. On les accueille dans des permanences, le lundi matin et le jeudi après-midi. Et puis on a aussi une activité de sensibilisation, et c'est dans ce cadre-là qu'on vient vous présenter aujourd'hui ce qu'on a fait avec Enchantons-nous et le concert du 23 juin.
Sensibilisation à l'ouverture, aux droits humains ?
Tout à fait, absolument. Un accueil qu'on veut digne des personnes qui viennent chercher refuge en France. Ben, on veut apporter la preuve que, en fait, ces personnes-là sont une richesse pour nous et qu'on a tout à gagner à mieux se connaître. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et ça marche bien avec le chant.
Alors, on va y venir tout de suite dans un instant. Je voulais simplement rappeler, la CIMADE, c'est une association qui existe en national, mais avec une histoire très ancienne. Hein.
Absolument, on a 80 ans, plus de 80 ans même, voilà. Et on s'est toujours occupé d'accompagner des personnes déplacées, réfugiées, sur des thèmes différents. Les causes ont varié, mais la préoccupation...
Et dès la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la fondation en 1939 pour accompagner les personnes déplacées qui ont... Par exemple, voilà, la ville de Strasbourg a été évacuée devant l'avancée ennemie et les personnes se sont retrouvées dans le sud-ouest, ne parlant pas forcément bien le français. Et donc, voilà. avec une origine de l'Église protestante, en fait, qui a organisé cet accompagnement par des étudiants, en fait, de la faculté de théologie de Strasbourg.
Eh oui, donc des réfugiés alsaciens, oui. À ceux qui viennent de partout aujourd'hui. La CIMAD poursuit, en tout cas, son combat en faveur de l'accueil et de la dignité du conseil juridique, vous l'aviez dit, et de la sensibilisation avec ce projet Enchantons-nous, qui est orchestré par Magali Gaudubois, autre invitée du jour. Bonjour.
Bonjour.
Magali, vous êtes chef de chœur.
Oui.
C'est vous qui avez proposé, dirigé ce qu'on va entendre et ce dont on va parler, hein, ce projet musical coporté par la CIMAD. Peut-être un petit mot, vous êtes chef de chœur sur quel type de répertoire? Habituellement, votre travail se situe où?
Habituellement, mon travail, en tout cas, j'ai vraiment un axe de mon travail qui est sur les chants engagés d'un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, m'intéresse parce que ça parle d'universel, ça parle de plein d'aventures collectives, de gens qui se sont rassemblés pour chanter ensemble, pour permettre à des langues de perdurer, alors qu'elles étaient, par exemple, si on parle du catalan qui était banni sous la dictature de Franco. En tout cas, c'est comment, dans ces chants, il y a pas mal de chants un peu partout sur la planète qui ont été chantés pour se donner du courage, pour créer des collectifs et permettre d'aller vers un monde meilleur. Donc voilà, au départ, c'est un peu, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je mène plein d'aventures un peu variées avec des acteurs différents, parce que je frappe à différentes portes. Ce qui m'intéresse, en tout cas, enfin, j'ai frappé à la porte de la CIMAD et puis on s'est rencontrés, de pouvoir mener des aventures avec des gens de toute origine et de partir de la richesse qu'on a chacun en nous pour créer des chants tous ensemble.
Alors, juste avant qu'on allume les micros officiellement, vous étiez en train de nous dire que vous aviez vécu à Calais et que vous aviez exercé sur ce territoire. Donc, on peut supposer à partir de là que cette thématique de l'accueil, des migrations, c'est quelque chose qui vous accompagne depuis des années.
C'est sûr, en tout cas, que la ville de Calais est une ville bien particulière où il se joue plein de réalités différentes et vibrantes, on pourrait dire. En tout cas, c'est une ville assez brute. Et ce qui a continué d'alimenter, en tout cas, mon regard sur le monde et ce que je voulais, comment je voulais agir moi aussi dans le monde d'aujourd'hui qui sera bientôt celui de demain.
Et ici, à Nantes, désormais. À mes côtés, Victoria.
Bonjour.
Victoria, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs?
Alors moi je suis Victoria, je suis en stage à la rédaction et je suis assez intéressée par les questions aussi autour de l'Europe en rapport aussi avec mes études et toutes les questions des migrations, je trouve ça hyper passionnant et encore plus l'utilisation du chant. Et après, dans quelques instants, vous écouterez comment par la nourriture et la cuisine, d'autres valeurs et cultures peuvent se transmettre.
Voilà, le teasing est fait. Merci Victoria. Également en plateau, Anna, bonjour.
Bonjour.
Alors Anna, vous faites partie des chanteuses de la chorale Enchantons-nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée jusqu'à la chorale?
Ouais. Alors au départ, je fréquentais l'accueil du jour. C'est avec ma rencontre avec Pierrette et qui parle si souvent de cette aventure. Donc je me suis embarquée en fait. Voilà. Donc elle m'a embarquée, disons, dans cette aventure. Au départ, j'étais sceptique. Parce que je n'ai jamais chanté dans ma vie depuis le collège, bien que je vienne d'une culture kabyle, qui exprime tout en chantant, en fait, par la chanson. Que ce soit des idées politiques, l'injustice sociale, l'identité, l'amour, l'exil, etc. Mais c'était une première et j'ai beaucoup apprécié cette aventure, vraiment. Elle est magnifique. Voilà.
On va en reparler. Vous venez d'évoquer Pierrette et Pierrette est avec nous également. Bonjour Pierrette.
Bonjour.
Vous êtes bénévole pour les Restos du Cœur et auprès de l'accueil de jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet accueil de jour?
Oui, donc je suis bénévole depuis 5 ans à l'accueil de jour des femmes en très grande précarité, principalement des femmes de la rue, qu'on accueille 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. pour leur permettre d'avoir déjà un lieu où se poser, ou pouvoir bénéficier d'un repas, ou pouvoir faire des rencontres, pouvoir mettre en place des ateliers. Donc, il y a beaucoup d'ateliers mis en place. Hein, que ça, moi, personnellement, je fais un atelier pâtisserie tous les vendredis. Je participe à l'atelier chant, mais il y a aussi de l'informatique, de l'esthétique, un atelier art floral. Enfin, il y a différentes choses qui sont proposées aux femmes qui le souhaitent. Hein. Bien sûr, il n'y a rien d'imposé.
Une idée du nombre de femmes accueillies?
Alors, actuellement, chaque jour, entre 40 et 50 femmes.
Tous les jours? Ça fonctionne? Il y a des salariés ou ce sont uniquement des bénévoles?
Alors, il y a une salariée, une éducatrice qui est là, qui travaille à plein temps, et autrement, essentiellement des bénévoles. Une trentaine de bénévoles, on va dire, regroupés sur l'ensemble de la semaine.
Et qui arrivent, en tout cas, à accueillir tous les jours 30 à 50 femmes?
Oui, voilà. Enfin, les
sacrée
femmes,
mobilisation
elles, principalement pour le repas. Hein. C'est vrai que quand on est à la rue, c'est pas facile. Dès le matin, quand elles sont dans des lieux d'accueil, dès 8h, 9h le matin, elles sont à la rue. Donc nous, on ouvre à 10h et elles viennent se restaurer et bénéficier de tout ce qu'on peut leur proposer et surtout de belles rencontres.
Sur les femmes qui viennent, alors ce qui les relie, en tout cas le point commun, c'est de connaître des situations de précarité.
Tout à fait.
À partir de là, les profils sont, j'imagine, complètement variés en termes d'âge, d'origine.
Tout à fait. Ça peut aller de 20 ans à, on a accueilli des femmes jusqu'à 80 ans. Qui sont de toute origine, aussi bien africaines que aussi des femmes françaises qui ont vécu des choses très très difficiles, des ruptures dans leur parcours et qui sont à la rue, des migrantes évidemment qui sont en situation très précaire et qui souffrent bien sûr de cette précarité de pouvoir obtenir des papiers, enfin tous les parcours qu'on accompagne et qu'on les dirige aussi vers la CIMAD quand c'est nécessaire. D'ailleurs, elles ont une bonne connaissance aussi de la CIMAD.
Une dernière question pour vous, Pierrette et Anna, éventuellement, si vous souhaitez réagir. Quel sens est-ce qu'il y a à créer un accueil de jour vraiment uniquement pour les femmes?
Alors, l'accueil de jour a 10 ans d'existence et c'était vraiment pour protéger les femmes, qu'elles trouvent un lieu où elles sont protégées. Je vais le dire quand même un peu comme ça, mais un peu protégée des hommes avec lesquels elles ont vécu de la violence, de l'agression. C'est vraiment un endroit qui leur est réservé. Parce que dans d'autres structures, elles, bien sûr, elles vont rencontrer des hommes. Et c'est très important pour elles d'être à l'abri, entre guillemets. Voilà, d'être protégée.
Anna, pour vous, cet accueil de jour, vous l'avez fréquenté longtemps, qu'est-ce qu'il représente?
Non, enfin, moi, je dirais que je ne l'ai fréquenté que récemment, hein, il y a quelques mois, c'est vrai. J'essaye quand même de recueillir les histoires des femmes que je fréquente aussi, à l'accueil du jour ou dans d'autres lieux aussi. Parce qu'en fait, j'ai aussi un projet d'écrire, hein, une BD sur les parcours de ces femmes, en fait.
Il faudra revenir nous en parler, là.
Ah oui. Quelle que soit l'origine, quel que soit le pays d'origine, quel que soit le statut social, la classe sociale, etc. Et là, ça m'a permis, en fait, de connaître un tout petit peu les parcours différents de ces femmes. J'ai eu une expérience, on va dire, très agréable. Au départ, c'est vrai qu'on est sceptique un tout petit peu, hein, comme je suis un peu cynique, c'est vrai que ça a été tempéré, hein, ce tempérament. Mais j'ai vécu vraiment des expériences très agréables et des relations, des liens vraiment très forts qui se sont tissés avec ces femmes. Après, je ne sais pas si Pierrette aussi m'en a parlé, c'est vrai qu'il y a du lien qui s'est créé. Et je pense que l'expérience en Chantons-nous a vraiment renforcé ces liens. Voilà, et c'est vraiment très... Je suis vraiment, j'admire ce que vous faites, hein, donc vraiment.
Alors, nous y venons, enchantons-nous, on l'a dit déjà, c'est une chorale avec des femmes qui fréquentent l'accueil de jour des Restos du Cœur, des personnes qui sont touchées, qui font partie du réseau de la CIMAD.
Absolument. Même si, en fait, les personnes qui viennent sont plutôt... encadrés enfin par des gens comme Pierrette de l'accueil de jour ou des gens comme d'autres bénévoles du monde dans la classe qui fait de l'apprentissage du français. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui côtoient les personnes migrantes au jour le jour. Nous, on les voit très ponctuellement parce qu'il y a un besoin d'aide pour comprendre les démarches. Mais ce n'est pas des situations très favorables à une proposition telle que chantée. Donc, c'est pour ça qu'on est tout à fait partenaire et sans l'accueil de jour, sans du monde dans la classe, ça ne pourrait pas avoir lieu parce que l'encadrement des bénévoles, il est essentiel pour dire, pour expliquer à des gens qui ne parlent pas français, qui n'ont pas forcément d'hébergement stable, enfin voilà, pour régler tous ces problèmes matériels, c'est fondamental qu'il y ait cette association en fait.
Mais vous allez déjà parfois sur un terrain culturel avec la CIMAD, puisque vous avez un festival qui s'appelle Migrants en scène.
Voilà, tout à fait. Et effectivement, notre aventure Enchantons-nous, elle a commencé pour ce festival Migrants en scène. On l'a fait déjà une première fois pour le Migrants en scène 2021 et on l'a recommencé pour le festival Migrants en scène 2022 avec la chance d'avoir rencontré les chorales de l'Accord avec en fait sous l'impulsion de Angers Nantes Opéra, donc qui nous ont donné cette perspective de pouvoir poursuivre après notre festival qui lui se termine début décembre. Donc c'est un deuxième étage d'une fusée qui a commencé pour Migrants en scène et qui là se poursuit de façon assez extraordinaire avec ce contact avec d'autres chorales allophones et puis le chœur de Danger Nantes Opéra, ce qui est quand même une très belle expérience.
Et oui, parce que le 23 juin, Enchantons-nous avec ces autres chorales, fait un concert sur les marches.
Voilà.
Théâtre Gralin à 19h, voilà. Ouvert au public, avec y compris. On va y venir sur le répertoire que vous travaillez et en détail. Mais là, c'est aussi, ça prend une autre ampleur, une forme de reconnaissance, une main tendue pour
tout
continuer
à
créer de la rencontre et
tout
les passerelles.
Tout à fait, voilà. Et puis, ça s'est accompagné aussi de plusieurs occasions. Enfin, on a eu la chance de pouvoir assister à l'Élixir d'amour. On a pu assister aussi à des répétitions du chœur dans Gênante Opéra. Donc, l'accueil digne, ça prend tout son sens dans ces circonstances, en fait.
Au niveau du répertoire d'Enchantons-nous, peut-être un petit mot et puis on va écouter assez vite un extrait. Magali, comment est-ce que vous avez travaillé avec les choristes ?
Alors l'idée, c'était vraiment que tous les chants viennent le plus, en tout cas, autant que possible, qu'ils viennent des participants et des participantes eux-mêmes. Elle-même, je ne sais plus comment dire le mot.
Elle-même.
Ouais, c'est ça. De toutes celles et de tous ceux qui participaient à cette aventure, parce que la voix. En fait, là, on a la chance que la voix, c'est un instrument qu'on a tout le temps avec nous. Que des chansons, on en a toujours qu'on traversait nos vies. Et donc, notre souhait, ça a été d'ouvrir la porte et de laisser de l'espace autant que possible pour que toutes celles et ceux qui avaient envie de partager des chants puissent le faire. Et derrière, après moi, mon travail, c'est de réussir à les transmettre et de faire que, parce que les personnes qui ont un chant à proposer n'ont pas forcément l'habitude de savoir comment le transmettre à un grand groupe de 50 personnes.
Ou ne se souviennent pas forcément de la totalité du chant,
tout à
des
fait.
Morceaux,
donc,
des arrangements. Des...
C'est ça. Et, donc, et après, la question de l'arrangement, c'est comment moi, je crée un petit arrangement qui soit relativement simple, mais qui permette de donner de l'ampleur au chant et qui donne un grand plaisir à le chanter à plusieurs voix et avec tout ce grand groupe. Et dans des langues, du coup... des langues étrangères qui nous viennent un peu de partout, puisqu'on a chanté en arabe, en espagnol, en zoulou,
en ukrainien,
en français, enfin voilà. Donc c'est aussi comment on apprend à prononcer ces langues qu'on ne connaît pas.
Alors justement, j'espère que je ne vais pas écorcher, vous nous avez transmis un morceau qui s'appelle Leyahob.
Leyahob, oui.
C'est quelle langue ?
C'est en arabe soudanais.
On écoute tout de suite.
بيدق على بابي حرام يا حب ضيعت شبابي ici une faire ça deux fois
oui deux fois oui. Tout ça
بيدق على بابي حرام يا حب
venez d'entendre les Yahoub par Enchantons-nous, une chorale qui réunit des Nantais d'ici et d'ailleurs, des hommes, des femmes, des situations de vie très, très différentes. Et nos quatre invités, Magali, Dominique, Pierrette, Anna, sont toutes les quatre chanteuses et bénévoles actives. En tout cas pour Magali, pas bénévole, mais professionnelle, chef de chœur, pour cette chorale qui se produit le 23 juin à 19h sur les marches de l'Opéra Gralin, qui a proposé une collaboration et un partenariat. Ce morceau, les Yahoub, juste avant qu'on l'écoute, vous nous disiez que c'était de l'arabe soudanais. De quoi parle-t-il ?
C'est un chant d'amour. C'est un chant d'amour qui nous a donné beaucoup de un bel élan à chanter tous ensemble. Il donne beaucoup de soleil, ce chant, quand on le chantait, beaucoup de joie.
Combien de chanteurs et chanteuses ?
Je prends la parole. Autour d'une cinquantaine, on va dire entre 40 et 40-50 à chaque fois. Après, c'est pas toujours les mêmes personnes, parce que justement, en fait, l'idée, c'est vraiment de partir des personnes qui sont là, qui sont disponibles, et dans ces réalités de vie précaires, eh ben, on n'est pas toujours disponible. Par exemple, pour faire la première partie dans Chantons-nous, c'est-à-dire d'aller jusqu'au spectacle pendant Migrants Scène, il y avait 5 dimanches de répétition, et c'est pas possible pour tout le monde de se libérer sur 5 dimanches. Mmh. Mais du coup, c'était de faire en sorte aussi que cette aventure, on puisse y venir une fois, deux fois, et de faire partie de cette aventure-là. Mais globalement, on a eu toujours entre 40 et 50 personnes.
Avec cette envie, hein, vous me le disiez quand, juste avant qu'on allume le micro une fois encore, de mélanger, c'est-à-dire qu'il y ait aussi des Nantais qui soient installés ou qui soient là depuis de longues dates, et que ce soit l'objectif, c'est la rencontre.
Absolument. Et c'est vrai que ça dégage beaucoup d'énergie et ça fait plaisir à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux personnes qui viennent de loin, qui sont ici de façon très précaire, et aux gens qui sont installés. En fait, grâce au chant, mais on arrive à créer des rendez-vous qui sont très chaleureux, qui font beaucoup de bien.
Anna, vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a chanté des répertoires différents, mais avec des langues différentes. Au départ, c'était difficile, mais pas aussi difficile que ça, en fait. Mais c'est vrai, ça m'a vraiment fait plaisir de chanter un chant de la Croatie. Par exemple, j'ai vraiment adoré. Et celui de l'Ukraine aussi. C'était vraiment une chanson, une belle chanson.
Voilà. Combien de chansons au répertoire ?
Alors, on en a appris, sur ces 5 premiers week-ends, on en a appris, je crois, 10. C'est un bon chiffre. On a été efficaces. Alors après, des fois, c'est des petits chants assez courts qui tournent en boucle et sur lesquels, justement, on ajoute une voix, une deuxième voix, et on les fait vivre. C'est pas forcément, c'est pas toujours des chants avec 5 couplets. Mais c'était aussi dans cette envie de pouvoir saisir tous les chants qui étaient proposés, et puis c'était possible. Donc on a réussi à les faire, ces 10 chants, et à leur donner de l'ampleur.
Moi, ce que je veux dire, c'est oui, il y a beaucoup de chants d'amour, mais il y a beaucoup de chants très accueillants hein, aussi en français, comme la chanson d'Émilie Loiseau aussi, « Venez dans ma maison », là, c'est vraiment, c'est l'accueil, quoi. Donc c'est peut-être ce sens-là de l'accueil, de l'amour, de ce discours inclusif, en fait, hein, qui est très, très marquant.
Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est l'envie des femmes de proposer et de chanter, parce qu'on se dit que ça ne va pas être facile devant tant de personnes. Je pense à Marie-Françoise qui a proposé Yéké Yéké, et comment elle met de l'énergie, de l'amour, et qu'elle invite tout le monde à chanter avec elle. J'avais noté une phrase que Magali, tu avais dit, mais c'était quand on avait fait le premier atelier chant, c'était tissé par nos voix un fil qui nous lie les uns aux autres dans un collectif, qui nous relie aussi par un pan de notre histoire, qui nous relie à notre être, tant la voix est ce que nous avons de plus personnel. Je trouve que ça résume pas, mais ça correspond bien à tout ce qui se passe.
Magali, est-ce qu'il y a un morceau en particulier qui vous a touché, que vous emporterez avec vous pendant des années, pour une raison
Quel exercice difficile. Parce que, en fait, comme tous ces morceaux sont sont le fruit d'une histoire, d'une rencontre avec des personnes. D'en choisir un, c'est extrêmement difficile. Mais en tout cas, par exemple, le chant En effet, cette année, Marie-Françoise qui généreusement a apporté Yeke Yeke, qui est un chant de Morikante, sur lequel on peut l'accompagner. Nayel qui a proposé un chant, elle, qu'elle a écrit, et sur lequel on a pu faire toute une base sonore derrière. Mais autant les chants soudanais, où on peut les reprendre vraiment tous ensemble. Ouais, en fait, c'est vraiment... D'en choisir un, c'est pas possible parce que c'est des vraies histoires collectives. C'est des vraies rencontres et que du coup... En tout cas, ils ont chacun leur saveur. Je botte pas en touche, hein. C'est vraiment sincère.
Lesquels entendra-t-on le 23 juin sur les marches de l'Opéra Gralin à 19h, puisque vous allez être avec des chorales allophones de l'Accor. Il y a d'autres chorales encore.
Du Collège Rosa Parks aussi.
Du Collège Rosa Parks.
Très content qu'il y ait des collégiens.
Mais vous allez chanter les uns après les autres votre répertoire ou vous allez tous chanter ensemble un répertoire commun?
Alors, c'est la rencontre, donc on va chanter une partie des chants tous ensemble. C'est-à-dire que le chœur d'Angers Nantes Opéra a appris nos chants, certains de nos chants. Donc, ce qui est vraiment, on est très, très content de ça. Et je peux vous dire que quand on a répété ensemble, quand le chœur s'est mis à chanter, il y a quelque chose qui est passé là, des frissons dans le dos de plein de gens. Et puis, ce qui est tout aussi extraordinaire, peut-être, enfin, qui n'était pas du tout évident, c'est que nous, on a appris des passages d'airs d'opéra.
Et donc, lesquels?
Alors, Va Pensiero, le cœur des esclaves, Toréador, des airs emblématiques que tout le monde, enfin tous les spectateurs et spectatrices connaissent et pourront avoir en tête avec nous. J'en profite quand même pour dire que, évidemment, c'est pas Magali qui pourra le dire, mais ça demande beaucoup de talent de la part de notre chef de chœur d'assurer tout ça. Parce que, bon, voilà, il faut, à partir de ce qui est délivré par les personnes qui viennent de partout, créer quelque chose que tout le monde puisse chanter, nous l'apprendre, rendre accessible et pas trop ardu d'apprendre les airs d'opéra. Donc, tout ça, c'est un vrai travail.
Merci, en tout cas, à toutes les quatre d'être venues nous parler de cette rencontre autour du chant. Je rappelle une dernière fois, pour écouter le résultat de ce travail, c'est le 23 juin à 19h sur les marches de l'Opéra Gralin. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier petit mot?
Alors, moi, j'espère que parmi les spectatrices et spectateurs, il y aura la même diversité que celle qu'on offre sur les marches. Donc, alors, je pense que ça répond aussi à une volonté de l'opéra de s'ouvrir le plus largement possible.
Et moi, si je peux juste enchaîner juste avec... En tout cas, c'est que je crois que le ciment de toute cette aventure-là, c'est l'envie d'être ensemble et que finalement, le chant a été un prétexte. Alors, le chant, c'est ce qui nous réunit puisqu'on se retrouve pour chanter ensemble. Mais mine de rien, c'est un peu un prétexte à vivre une aventure collective, à vivre une aventure ensemble, à rencontrer des personnes pour des gens qui sont plus ou moins d'ailleurs isolés ou pas. Et du coup, et en fait, le ciment de tout ça, c'est la joie. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans les ateliers. Et c'est à partir du moment où on est heureux d'être ensemble, où il y a du jeu, où il y a de l'amusement, où il y a du plaisir, alors, en fait, tous ces chants étaient possibles. On a réussi à les apprendre, on a réussi. Et donc, si on arrive aussi à transmettre ça sur la place quand on chantera avec ces autres chorales, avec qui on est ravis de pouvoir aussi tisser encore une autre aventure, on aura réussi quelque chose.
Moi, enfin, je rejoins un tout petit peu ce que Magali a dit. La chanson, je trouve que la chanson ou le chant, c'est une aventure qui mélange, de mixité, hein, que ce soit l'âge, la classe, le sexe, etc. Donc, venez nombreux le 23 juin. À 19h, place Gralin.
Oui, effectivement. Moi, je pense que les femmes attendent impatiemment cette date. Vous allez voir, il y aura un esprit aussi de très coloré, parce qu'elles vont aussi représenter chacune leur pays, ou en tous les cas, elles en ont envie. Et au-delà d'Enchantons-nous, on chante très régulièrement. Très, très régulièrement, à l'accueil du jour ou ailleurs. Mais c'est vrai, un grand merci à Magali, parce que franchement, elle a une capacité, même si c'est son métier, à mettre tout, à tout positiver, à mettre tout en scène et à être tellement aussi présente auprès des femmes, tellement généreuse. Et merci beaucoup Magali.
Et puis tout ça fonctionne aussi. En tout cas, on a compris qu'il y avait beaucoup de solidarité féminine là dans ce studio qui est perceptible à travers l'accueil de jour, à travers l'implication sur la chorale Enchantons-nous. Merci à toutes les quatre d'avoir partagé un peu de cette énergie.
On poursuit toujours sur ce thème de l'accueil des migrants, des initiatives solidaires locales avec la dernière partie de ce mégaphone où il sera question du Refugee Food Festival qui a lieu à Nantes et dans 13 villes du 16 au 24 juin. Un reportage de Victoria Précigou en stage à la rédaction de Jet qui est allée à la rencontre d'un binôme de cuisiniers et a pu savourer leur création pour l'occasion. Ce sera tout de suite après une courte pause musicale où on écoute Émilie Loiseau, Ma Maison.
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui à l'entrée de la rue Joffre au restaurant 5 qui accueille la 4e édition du Refugee Food Festival. Il aura lieu à Nantes à partir du 17 juin et rassemblera 5 restaurateurs et 2 artisans. Nous partons donc à la rencontre de ces chefs, artisans et amateurs qui participent à cet événement pour partager leur histoire, leur savoir-faire et culture à travers la cuisine. Bonne écoute!
Vous avez ici le falafel. Falafel avec une sauce au yaourt ou piment oiseau, c'est légèrement relevé. Vous allez retrouver ici la souad, donc c'est typique du Soudan avec l'aubergine, le beurre de cacahuète et des oignons. Vous allez avoir ici la garoussa, donc c'est la crêpe. et le foule, donc c'est base de fèves avec des œufs, des tomates, des oignons également. Et donc là, la salade de carottes avec du yaourt, de la mayonnaise et des graines de sésame.
Alors, Fanny Borot, je suis directrice du développement pour l'association Refugee Food en charge du festival. Donc le Refugee Food Festival, c'est un événement culinaire solidaire qui a lieu tous les ans au mois de juin, autour du 20 juin, qui est la journée mondiale des réfugiés. Et l'objectif de ce festival, c'est de sensibiliser à l'accueil et à l'intégration des personnes réfugiées, de le faire par le prisme de la cuisine. Ensuite, d'accompagner ces personnes réfugiées vers l'emploi, une insertion professionnelle réussie. Et troisième objectif, c'est vraiment de pouvoir rassembler autour de la table et vraiment faire se rencontrer des nouveaux arrivés et des publics locaux. Et le festival est organisé par des porteurs de projets et des bénévoles, des citoyens locaux qui nous ont contactés parce qu'ils avaient envie de faire leur part dans l'accueil des personnes exilées en France.
Bonjour, alors effectivement avec Alice on comporte le Refugee Food Festival à Nantes. Alors le festival va démarrer samedi 17 juin, il dure à peu près une semaine et on clôture le 24 juin au Watinis par un grand banquet avec une expo d'illustrateurs et de la musique. L'idée donc c'est vraiment de créer la rencontre avec des chefs nantais et des artisans et des personnes réfugiées, donc on se rencontre à travers plusieurs rendez-vous pour apprendre à se connaître, pour échanger sur nos cultures, nos envies, nos goûts, les épices classiques des pays, etc. Et ensuite, ils créent des menus ou des collaborations artisanales fusion pour faire vivre aux Nantais des expériences inédites. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange, le partage et de découvrir des patrimoines et matrimoines culinaires venus d'ailleurs.
Quelles sont les autres grandes villes en fait en France? Est-ce qu'il n'y a que Nantes qui organise cet événement?
Oui, alors cette année, c'est la 8e édition du festival. On est présent dans 13 villes en France et en Suisse. Donc à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Nantes, Dijon, Montpellier, Tours, Nice et Genève.
J'imagine que c'est un travail d'organisation assez important. Comment ça s'organise?
Alors effectivement, le festival, c'est une initiative citoyenne qui est portée par l'association Refugee Food. On a la chance de compter de nombreux bénévoles, nombreux et nombreuses bénévoles qui nous accompagnent pour organiser le festival durant plusieurs mois. On a des photographes qui réalisent des reportages bénévoles. On compte aussi sur le soutien de la ville de Nantes. Et on a aussi pas mal de relais avec des conseillers à l'emploi, des référentes sociales. Donc je dirais que c'est beaucoup d'initiatives citoyennes et du temps. Voilà.
Alors bonjour, je suis avec Jocelyn et tu peux me rappeler ton prénom ?
Roucaïa. Okay.
Super. Je vais vous poser quelques petites questions sur votre amour pour la cuisine et pourquoi vous avez eu l'envie de participer à ce festival.
Bah moi, l'amour de la cuisine, il vient un peu de mon enfance. Ma famille, qui est agriculteur maraîcher, nous a donné l'amour du produit. Donc voilà pourquoi on a ouvert un restaurant à Nantes, proche de l'exploitation familiale. On travaille leurs produits. Et donc Alice, du Refuge Food Festival, nous a contactés pour participer. Et c'était avec grand plaisir de pouvoir partager un moment avec Roucaïa pour apprendre un peu sa cuisine, sa culture et faire un mélange avec nos produits et sa cuisine.
Et toi, Roucaïa, pourquoi tu as eu envie de participer à ça?
Normalement, c'est très important pour montrer les jeunes et tu connais d'autres techniques de France et tout ça. Et je suis trop contente parce que j'ai pu participer à l'atelier de mon pays, Soudan.
J'imagine que vous avez beaucoup appris en partageant vos différentes techniques. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que vous avez pu partager, vous apprendre mutuellement?
C'est vrai que moi, je m'étais un peu renseigné sur la cuisine du Soudan avant de rencontrer Roucaïa. C'est vrai que je connaissais vraiment pas grand-chose. Donc c'était hyper intéressant. Elle m'a appris à faire la basbousa, elle m'a appris à faire la salade foule, aswad. C'est des choses que, voilà, on a beau voir les recettes, mais on n'a pas la technique. Donc tout ça, on l'a appris ensemble, elle m'a montré. Et donc voilà, sinon c'était chouette.
Enfin, vous me parlez de mots assez techniques et je pense que nos auditeurs ne savent pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu plus particulièrement ce qu'on a mangé ce midi et comment vous avez fait ces plats-là?
Alors on a fait aswad. Aswad, c'est une salade avec de l'aubergine.
Du cacahuète,
de
tomate, l'épice comme le ail, le sel, le poivre. et aussi le poivre noir.
Et ça a été aussi servi avec du foul. Donc le foul, c'est des fèves. Fèves, citron, ail.
Des oignons. Après, on a fait le disof et tomates et persil et tout ça. Et à la fin, on ajoute l'huile d'olive. Donc,
tout était servi avec une gourassa. Une gourassa, c'est une galette.
Le galette, on a fait avec le farine et le louvre de boulangerie, un peu de sel, un peu de sucre. On a laissé pour gonfler un peu. Après, on a mis dans la casserole.
Tu m'as dit que tu venais du Soudan, du coup, et que c'était la cuisine de Soudan que vous avez fait ici. Est-ce que tu peux un peu me raconter ton parcours et pourquoi la cuisine, en fait ? Pourquoi toi, c'est important de partager tes cultures au travers de la cuisine ?
C'est très important pour montrer les jeunes le cuisine de mon pays et pour le partage et tu montres les jeunes on mange quoi, comment on fait ça et après moi aussi je connais de cuisine de France et autres pays et tout ça.
Et toi, tu t'as dit que tu étais de la région et que j'ai vu que c'était vraiment une cuisine locale. Comment vous avez fait pour... parce que c'est des ingrédients qui viennent de loin, j'imagine. Comment t'as fait pour mêler tout ça, le local, avec...
Alors la chance qu'on a, c'est que Refuse Food Festival s'est tombé à la saison en plein été, enfin début de l'été. Donc du coup, on est en plein dans le début des aubergines, des courgettes, de la tomate. Et tout ça, en fait, nos parents, ils en ont à une heure d'ici. Donc ceux qui font tout. Donc non, au final, on n'a pas eu trop de problèmes à trouver. On avait vraiment à peu près tout ce qu'il nous fallait à portée de main.
Ça commence samedi 17 jusqu'au 24 et vous allez accueillir des gens toute la semaine. Comment ça s'organise en réalité au restaurant sain ici ?
Alors pour nous, non, c'était vraiment la soirée de lancement, enfin le déjeuner de lancement. Donc au final, c'était un peu notre seule participation. On l'avait fait l'année dernière. Donc place aux autres, c'est vrai que chacun, il y a chaque fois un événement dans plusieurs restaurants. Donc ça s'était très bien passé l'année dernière et c'est pour ça qu'Alice nous avait contacté pour pouvoir faire un peu ce déjeuner de presse, voilà, pour pouvoir en parler.
Qu'est-ce que vous en retirez en fait de cette expérience de partage culinaire ?
Bah nous c'était la deuxième fois et on l'a fait deux fois parce qu'on avait apprécié la première, donc c'est avec grand plaisir de le refaire une troisième fois et si c'est pour apprendre une nouvelle cuisine, c'est avec grand plaisir.
Et pour moi aussi, je suis très content pour continuer le troisième fois. Ça, pour moi, le deuxième fois. Et je suis très content avec Jocelyn. Elle comprend moi très bien.
Après cette expérience, tu travailles dans un restaurant ? Tu as un projet de monter un restaurant ou...
Normalement, la cuisine n'est pas mon projet professionnel. Je suis infirmière. Parfois, je travaille à les restaurants, mais après, j'ai besoin de continuer dans mon projet professionnel infirmier.
D'accord. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est génial d'avoir pu avoir votre témoignage. C'était très bon. Encore merci pour ce repas. Je suis avec Moussa qui a créé sa bière avec la brasserie La Tête Haute, qui va nous en parler un peu plus. Bonjour Moussa. Dis-moi un peu comment ça s'est passé, la création de cette bière, et pourquoi tu as eu envie de faire ça.
Je m'appelle Diawara Moussa, je suis né le 5/6/1992, la nationalité guinéenne. Je suis venu en France le 18 mai 2022. Ce qui m'a fait venir en France, la lutte contre l'exclusion des jeunes filles et des femmes. Je suis diplômé en économie et gestion et je fais aussi la télécommunication. Ce qui concerne la bière, l'initiative a commencé avec deux personnes qui s'appellent Anne-Sophie, qui est chargée de la communication à La Tête Haute. Il y a aussi Alice. Alice aussi, qui a aussi un restaurant en Antici. La relation est venue de l'association France Horizon dans le but de festive foot pour les réfugiés.
La bière, comment tu l'as fabriquée ? C'est quoi le processus en fait pour faire de la bière ?
Il y a des gingembre, il y a du poivre, il y a aussi des graines qui ne sont pas en France, qui viennent des États-Unis. Ma bière a une forme, c'est une bière américaine, c'est à la forme d'une bière américaine, c'est un peu ça, et c'est comme ça ils ont écrit des composants de la bière et du coup ça fonctionnait. Il y a des poudres qu'on mélange avec la bière et du coup ça a donné le goût effectivement, mais c'est avec ma propre composition qui réellement aujourd'hui on a le goût de la bière.
Et qu'est-ce que tu en as retenu toi de cette expérience de partage un peu avec une brasserie nantaise, avec ta culture toi de Guinée ? Qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce que ça t'a appris cette rencontre ?
D'abord, je suis musulman. Dans notre tradition, les musulmans réellement ne touchent pas de l'alcool, ils ne boivent pas de l'alcool. Et là aussi, les personnes, donc je les ai rencontrées à la brasserie, c'est des personnes merveilleuses, gentilles, ils m'ont beaucoup aimé. Et jusqu'à présent, je suis fier réellement de faire ma bière. J'ai envie de voir ma bière progresser et prendre toute la France.
Cette émission dédiée à l'accueil des migrants et des réfugiés est désormais terminée. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet jetfm.fr. À suivre dans un instant, Pensée locale, le programme de reportage court de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, suivi de Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Économie sociale et solidaire en Pays nantais et au-delà.
Mégaphone,
le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bonjour, Guénol et Raoul. Donc, je suis médiateur numérique, en tout cas à la Marmite numérique, à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne. J'ai aussi du coup une casquette Frama Ligue. C'est un outil au service de la vie associative. Les deux grands objectifs, c'était d'avoir le respect en tout cas des données personnelles des utilisateurs et utilisatrices. Un peu le côté lutte anti-GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et le deuxième volet important, en tout cas à la création de Frama Ligue, c'était le volet humain. On a du lien avec les personnes qui traitent les données ou en tout cas qui gèrent en tout cas l'outil.
C'est un outil, une plateforme qui a été créée en 2016, c'est ça ? Avec quels outils, à quoi ça ressemble finalement ?
Alors effectivement, ça a été créé en 2016 avec différents outils. Après, ça s'est étoffé au fur et à mesure des années. Mais un outil de partage de documents. Donc c'est le premier outil qu'on utilise qui s'appelle Nextcloud. Un système de partage de fichiers, un système d'agenda, un système de sondage, de formulaire, un outil de discussion instantanée. Il y a différents outils en tout cas au service de la vie professionnelle et vie bénévole quotidienne. Pour autant, en fait, un logiciel libre, normalement, ça tourne autour de quatre grandes libertés. Déjà, une liberté d'utiliser le logiciel, donc c'est-à-dire que tout le monde peut prétendre à utiliser l'outil. Une liberté d'étudier le fonctionnement du programme. Une liberté aussi de redistribuer du coup des copies. L'idée, c'est on peut l'utiliser, mais on peut aussi justement le porter sur d'autres endroits. Et il y a aussi la liberté d'améliorer le programme. Le volet demande de fonctionnalité. On va pouvoir faire porter notre voix et dire ce serait bien d'avoir ci, d'avoir ça. Et après, derrière, même si moi je ne sais pas coder, je peux le dire. Et derrière, peut-être que ça va être fait, entendu en tout cas, ou écouté. C'est le cœur de métier de la Ligue d'enseignement qui a fait que ça a été porté par la Ligue de l'enseignement. Dans l'accompagnement en fait, de la jeunesse, on a un dispositif qui s'appelle les juniors associations. Et ces juniors associations permettent à des jeunes, en tout cas, de pouvoir créer leurs propres assos. Et ça a été créé à partir d'une junior association de plusieurs garçons. Et en fait, il y a eu un don de serveur à un moment. Et ces jeunes avaient la technicité pour pouvoir créer en tout cas ce serveur. Et après, la Ligue de l'enseignement a pu les accompagner en tout cas dans ce projet-là. Et d'ailleurs, cette junior association, c'est plus des jeunes du coup maintenant, mais ils sont justement bénévoles. Ces trois bénévoles qui sont actuellement dans Frama Ligue faisaient partie de cette junior association.
Justement, on parlait de serveurs, ça veut dire que ces serveurs, on pense souvent à ceux des GAFAM qui sont dans la Silicon Valley ou on ne sait où aux États-Unis. Ici, ceux de Frama Ligue, ils sont où ?
Alors bon, là, vous n'allez pas forcément le voir, mais ils sont à 3 mètres de nous. clairement, en fait, ils sont dans nos locaux.
C'est plusieurs grands racks, on va appeler ça, des étagères métalliques avec différents disques durs qui clignotent, bien sûr. Ça peut paraître un peu obscur avec des fils qui sortent et différents un petit ordinateur qui tourne tout seul. En fait, c'est les disques durs, c'est là où sont stockées en fait justement les différentes données, des petits 0 et des petits 1 en fait à l'intérieur. Mais en fait, c'est un très gros ordinateur, si on doit résumer ça.
Les données sont hébergées à Laval. Bien sûr, après, la question va se poser de... là, on a 2000 utilisateurs et utilisatrices. La question va se poser de s'il y a beaucoup plus d'utilisateurs et utilisatrices, comment on fait ? L'idée, c'est pas forcément de centraliser tout au même endroit. Alors, il y a vraiment trois utilisations qu'on peut avoir des données personnelles. Pour un problème technique sur demande de l'utilisateur utilisatrice, bien sûr, on a besoin d'avoir accès aux données des fois en fonction de la problématique. Si on n'a pas besoin, forcément, on ne va pas aller voir. Dans un cadre légal, forcément, si la loi nous impose à récupérer les données personnelles, forcément, on va être obligé de les donner. Et ça, ce n'est pas un souci. Et dans un but uniquement statistique aussi, bien sûr, ça ne va pas aller très loin, mais c'est pour savoir, par exemple, il y a combien d'utilisateurs actuellement. L'idée, c'est à l'échelle, que tout le monde, en tout cas, puisse avoir la sensibilité de faire ses choix et de faire des choix éclairés. Et là, l'idée, justement, c'est de proposer un outil qui respecte plus l'utilisateur et l'utilisatrice. Et normalement, le choix se fera naturellement aussi au regard des aspirations de la personne et de sa protection personnelle, j'ai envie de dire.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Reportage de Marie Chevillard pour L'Autre Radio, réalisé dans le cadre des formations du groupe numérique du mouvement associatif.